Je vais vous dire, ce qui produit de l'émotion chez moi, bien plus que les images dont on est gavé, c'est le son. Et je me l'explique depuis toujours par l'épisode des sirènes dans l'Odyssée d'Homère. Vous vous souvenez, juste avant de repartir en mer, la magicienne Circé alerte Ulysse de la menace des sirènes. Elle lui dit qu'il est fou, celui qui s'approche et qui prête l'oreille à leur chant. Jamais il ne reverra sa femme et ses enfants. Et Ulysse la prend au mot, mais tente quand même l'expérience des sirènes. S'il bouche les oreilles de ses matelots avec de la cire, bah lui, il préfère se faire attacher au mât de son bateau. Et ce qui se passe alors est prodigieux. Dans le silence de la mer assoupie, il entend leur chant mélodieux. Et quels secrets lui disent elles, les sirènes? Elles lui disent qu'il sera sauvé par la voix qui s'échappe de leurs lèvres. Elles lui disent que seule l'écoute pourra le charmer. Elles lui disent que c'est le son qui lui donnera de l'émotion. Et effectivement, dès lors qu'il les entend, Ulysse explique que c'est son cœur qui désire les écouter. Alors on peut leur échapper aux sirènes, c'est ce que raconte l'Odyssée. Mais là, le son, c'est quand même le pouvoir du son. Et ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire de sirènes, de son, d'émotion, je vais vous dire, c'est qu'avant d'être écrite, cette histoire, elle a longtemps été orale, racontée. Chantez, dites, chantez.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui. Vous allez l'entendre, comédienne, metteur en scène, c'est pour Les Hirondelles de Kaboul, un film d'animation adapté du roman de Yasmina Kadra qu'elle co-réalise avec Elie Gobé-Mévelec et qui vient d'être primé au festival du film francophone d'Angoulême, que je la reçois aujourd'hui. C'est l'histoire d'une jeunesse sous le régime taliban qui se cherche un avenir et qui fait le pari réussi ici de l'émotion également par le son. Bonjour Zabou Bretman.
Bonjour Augustin Trapenard, j'adore les sirènes, j'adore ce que vous avez dit sur les sirènes. Ça a été un chapitre dans l'Iliade et l'Odyssée dont je me souviens extrêmement bien. Je l'ai lu très jeune et je lisais ça comme aujourd'hui je peux regarder des séries télé comme il y en a plein maintenant. Et c'était quelque chose de tout à fait particulier, ce moment des sirènes, qui à la fois m'émerveillait et me faisait extrêmement peur.
C'est-à-dire qu'elles sont pas commodes, faut dire les choses comme elles sont.
Elles sont pas commodes.
Et se peut-il donc que le son soit plus fort que les images? Parce que c'est un peu ce qu'elles nous disent.
En tout cas, je pense que le son est immédiat, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par une réflexion. On peut aussi être ébloui par un coucher de soleil, par la vision de la nature, bon, bien sûr. Mais l'émotion, est pour moi, vient du son, est immédiat. C'est une émotion immédiate. Voilà.
Alors, par exemple, à quel défi sonore est-ce que vous avez été confrontée, vous, en tant que réalisatrice pour Les Hirondelles de Kaboul?
Eh bien... En fait, ce qui se passe, c'est que comme comédienne, j'ai fait des voix pour les animations.
Oui.
Titeuf, Bécassine. Et j'arrivais, je trouvais que les comédiens arrivaient trop tard. On est derrière une barre, on lit un texte. Donc, il est très compliqué physiquement d'être investi, même si on le fait le mieux possible. Et puis, rythmiquement, c'est pas notre rythme. Ce n'est pas notre respiration. On ne peut pas hésiter, puisque le personnage ne va pas hésiter. Donc, c'est très frustrant. Et je pense que ce n'est pas
juste.
Eh bien, ce n'est pas juste. Or, précisément, la justesse, comme dans la musique, la justesse politique, la justesse du récit, passe par la voix, passe par le son. C'est pas la voix, c'est le son. Or, je me suis dit, prenons les acteurs d'abord, faisons-les jouer d'abord, complètement, c'est-à-dire qu'ils ont appris leur texte, ils étaient même en costume, ils ont même bu, parce que quand une voix boit, elle est modifiée. Quand une voix mange, elle est modifiée, pas seulement par le son de la pistache qui est en train de grignoter, mais aussi par le fait qu'on est modifié quand on avale quelque chose. Et là, je suis polie, bien entendu. Et ce que je veux dire, c'est que quand ils ont fait ça, on a pu tout faire. Et je leur ai demandé, Simon Abkarian, Zita Enro, Swan Arlo, ou Yamabas, Jonas, Poudrou, tout ça. Et évidemment, mon cher papa, je leur ai demandé de ne pas hésiter à hésiter. Ne pas hésiter à faire en sorte qu'on puisse animer les imperfections.
En fait, c'est fascinant, vous avez procédé comme pour une pièce de théâtre ou pour un film. Pourquoi le dessin animé alors?
Mais parce qu'on me l'a proposé en fait. On est venu me proposer un film d'animation et je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'essayer ce truc-là, parce que essayons dans ce sens-là. Et donc, ils hésitaient, ou ils improvisaient un tout petit peu, ou quand Zita Enro, qui avait un tchadri, d'accord, elle l'avait vraiment dans le plateau où on a pris le son direct. On a fait une bande son sur laquelle ils ont animé, sur laquelle ils ont gardé les mouvements aussi, les gestes, le rythme. Mais Zita avait une burqa. Et quand Swan lui a donné une bouteille de soda, parce que c'est dans le film, et pour la faire boire, Elle a dit, attends, elle a rigolé, elle a dit, c'est pas ma bouche, c'est mon nez. C'est idiot, mais ça, je n'aurais pas non plus inventé. Donc il s'est passé plein de petites choses qui sont merveilleuses, inattendues, et qu'on a pu animer.
Ce qu'il faut dire, c'est que le dessin animé permet aussi de dire des choses qu'on ne peut pas dire. Je pense à cette scène qui est pour moi la scène pivot du film, où une femme en burqa, une femme dont on ne voit pas le visage, se fait lapider en pleine rue. Qu'est-ce qui, pour vous, rend cette scène impossible à filmer?
Je pense qu'elle est possible. Alors oui, elle est possible à filmer en vrai. En vrai, on peut tout faire. Artistiquement, on peut tout faire. Après, c'est le moyen, comment on va faire. C'est comment on le raconte, pas ce qu'on raconte, mais comment on va le raconter. Il est vrai que avec cette peinture quasiment, puisque c'est de l'aquarelle, j'ai pas en plus été choisir la plus simple des animations, puisque c'est une aquarelle traditionnelle qu'a faite Eléa Gobemevelec, c'est-à-dire les contours ne sont même pas terminés. Donc ça permet une forme de distance, celle qu'on a avec un tableau, ou celle qu'on a avec la littérature aussi.
Oui, un détour.
Un détour. On a encore de la place, le spectateur a encore de la place de se faire un peu sa propre image. Et le sang, pardon, mais le sang, c'est de la peinture quand même.
Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, cette scène, pour vous? Quelle lecture est-ce que vous en faites?
Je trouve cette scène, qui est vraiment dans le roman de Yasmina Kadra, fondamentale. Parce que ça raconte quoi? C'est un jeune homme qui va hurler au milieu des loups. C'est-à-dire que tout à coup, il prend une pierre, mais rien ne le prédispose à le faire. Et tout à coup, je trouve que ça parle du libre arbitre. Je pense que Yasmina Kadra évoque à ce moment-là le libre arbitre, qu'à ce moment-là, on peut se dire, non, je vais pas la lancer, la pierre. Eh ben, si, il va le faire. Et il se pose la question, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Et je pense que c'est vrai. Alors, il y a la violence de la scène et il y a pourquoi on va jeter cette pierre. Oui. Je trouve que c'est la question, en fait.
Et qu'est-ce qui nous rend humains aussi dans cette scène de déshumanisation? C'est comme ça que je l'ai lu, moi. Qu'est-ce qui, pour vous, Zabou, a le pouvoir, justement, de nous rendre humains?
Eh bien, c'est le pouvoir de dire non, de résister, toujours, de résister à tout. On a toujours, à un moment donné, une capacité à dire non.
Et puis, dans votre discours, on l'entend, le détour de l'art, de la culture, du savoir. Que faire lorsque art, culture et savoir sont bannis d'une société, pour vous?
Faire un film d'animation. Faire devenir, alors j'ai un tout petit peu truandé le roman, faire devenir, à la place d'avocate, la faire devenir dessinatrice.
Oui.
Je trouvais ça beau que le dessin se dessine. Et l'ultime résistance contre les talibans, c'est la peinture, c'est la musique, c'est l'art.
J'aimerais t'en enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. L'histoire est tronquée, menteuse, je veux pas retourner la tête de jeunes enfants.
Chut, Mohsen.
Mais tu sais qu'il y a une autre école.
Ah bon?
Une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Tu es payé par l'école coranique, mais tu donnes ton cœur à l'école de la vie.
Je sais pas, Avec Zuneira, on voudrait quitter le pays.
Parle-lui à elle aussi qu'elle puisse venir dans cette école. Je comprends votre désir de liberté, mais est-ce qu'il ne faut pas rester et se battre de l'intérieur pour nos valeurs profondes, pour ce pays qui a tant souffert en sauvant ses enfants?
Un extrait des Hirondelles de Kaboul qui nous parle, Zabou, somme toute, de résistance, de combat, d'engagement. En quoi est-ce que vous avez l'impression de vous engager, vous, en faisant ce que vous faites?
J'ai toujours du mal à répondre... comment dire... parce que j'ai pas la sensation, et je ne souhaite pas faire des choses à message, jamais. Oui. Mais l'idée, c'est que ça soit toujours entre les lignes, ça soit un peu tout le temps, partout. Ça n'est pas ponctuellement un discours. C'est partout, tout le temps. Et voilà, il faut être poreux à toutes les histoires, à tout ce qui se passe. C'est comme quand on est sur une table de montage. C'est politique, le montage. Qu'est-ce qu'on pense à ce moment-là du personnage? Qu'est-ce que ça évoque? On ne peut pas. C'est un acte délibéré de l'artistique, et il est forcément politique, il est forcément civique, il existe et il est éthique tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se doit de se poser toujours la question: qu'est-ce que je dis?
La question de l'engagement, elle est centrale, et son traitement est assez passionnant dans ce film, parce qu'il s'agit de s'engager pour l'avenir d'un pays. L'avenir, quelle vision est-ce que vous en avez, au juste? Tiens, ça vous angoisse? Ça vous réjouit, vous?
Les deux. C'est exactement les deux. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse. J'ai vraiment le cœur serré. Mais serré, c'est-à-dire ça paraît un peu idiot comme ça à dire, comme ça à balancer au micro, mais oui, il m'arrive de pleurer physiquement sur des situations de peuples qui souffrent. Ça m'arrive d'être complètement affolée par ce qui arrive sur la planète. Ça m'arrive d'être extrêmement angoissée par le fait que la culture, j'ai l'impression, est en train de se déliter ou de s'affiner comme, vous savez, comme une peau de chagrin, quoi.
Mais vous les avez toujours eues, ces angoisses, quand vous aviez, je sais pas, une dizaine d'années, en mai 68, tiens. Vous imaginez comment le futur, Zabou?
Mais c'est particulier parce que j'avais une famille extrêmement engagée, tout le temps, dans tout, extrêmement vigilante dans tout, ma mère résistante, petite fille un peu contrainte, abusée, malheureuse, un père extrêmement féministe aussi, et vigilant surtout, me disant attention, ça, qu'est-ce que c'est que cette phrase-là, ça c'est pas bien, attention, soyons vigilants, et des parents qui étaient complètement écolos et extrêmes, qui parlaient tout le temps des problèmes de la planète qui arrivaient. Donc moi je me disais oui, bon, ils exagèrent un tout petit peu, et puis je m'amusais, je me cultivais, je lisais tout le temps tout parce que j'aimais tout. Et
il y avait un petit côté militant aussi, hein. Vous avez fait les manifestations.
Ouais, mais ça m'emmerdait prodigieusement. Ah bon? Non, ce qui me faisait plaisir, c'est qu'on rigolait énormément. On se marrait beaucoup, 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 parce qu'il y avait aussi l'époque des situationnistes, il y avait quand même des slogans du genre « il y en a marre des patates au lard », donc c'est quand même super rigolo comme slogan.
Vous voudriez dire que l'humour chez vous vient de là?
En tout cas, c'est tout est une bonne raison ou une mauvaise raison à se marrer. Et ça, c'est une forme de culture qui existait beaucoup. Attention, j'ai pas nostalgique, j'aime pas tellement ça. Je trouve que ça n'a aucun intérêt et qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux maintenant qu'avant.
Pour autant, qu'est-ce que vous changeriez là tout de suite maintenant?
Non, je trouve qu'au niveau de l'éducation, je pense que ça part de là. Je pense que le court terme est une mauvaise manière de changer les choses. Évidemment, on peut faire en sorte que la justice soit plus forte pour les mecs qui tabassent et qui tuent leurs femmes, mais je pense que ça vient aussi il faut penser en une génération, il faut penser à 25 ans. C'est-à-dire que il y a quoi? Il y a l'éducation. Et il faut absolument mettre l'argent là, quoi. Il faut aider les profs, aider tous ces gens qui sont là à se battre pour faire un travail incroyable.
Et de quel pouvoir dispose l'artiste pour faire face à ces crises?
La résistance. C'est-à-dire que, oui, la résistance. Et on est en France, donc on a quand même une chance inouïe qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut pas gâcher. Je pense qu'on a des aides du gouvernement. Vous savez qu'on est un des rares pays à avoir un ministère de la Culture. Je veux dire, faut pas l'oublier, ça. Faut en être heureux. Donc vous me demandiez quelle partie de moi est optimiste. En fait, une grande partie, avec un chagrin profond, mais une grande partie. C'est-à-dire que je pense quand même que l'être humain a aussi autant une capacité à être bon, même si parfois il fait vraiment chier, quoi.
Celle qui est pas optimiste dans cette émission, mais qui est tyrannique. En revanche, la culture et son actualité despotique, parfois très méchante. Que se passe-t-il donc, ma chère Zabou, aujourd'hui jeudi 29 août?
Non, papa, comme ça,
sans me donner la moindre chance.
Dernier baiser, la chanteuse américaine Nancy Holloway, icône des yéyés, est morte hier, elle avait 89 ans. Établie en France dans les années 60, elle enregistre alors plusieurs de ses succès. Dis-lui que je ne suis pas là, en duo avec Nino Ferrer, et surtout on va pas comme ça. Variation sur le célèbre Don't Make Me Over de Dionne Warwick. Salut l'artiste. C'est la fête à la Villette, le festival le plus swingant de la rentrée inaugure ce soir sa nouvelle édition avec un concert du boss de la basse, Marcus Miller. Jusqu'au 10 septembre, l'événement nous invite à un mélange des genres, du jazz à la funk en passant par le hip-hop et la soul. On attend notamment le show de l'infatigable Lee Fields, le dernier tour de chant de la légende cubaine Omara Portuondo, ainsi qu'un hommage à la reine de la soul Aretha Franklin disparue en août 2018. Respect. Pascal Leval, bien. Pour la 60e année de sa création, la société Mattel a décidé de mettre à l'honneur deux grandes figures dans sa nouvelle collection de poupées Barbie, la militante Rosa Parks et l'astronaute Sally Ride. Rejoindront ainsi les autres modèles de la célèbre marque de jouets. En 2018, la société avait déjà créé une polémique en annonçant la création d'une poupée à l'effigie de l'artiste Frida Kahlo. Ah ouais, poupée.
Mom, a boy, a kid was killed tonight.
Jimmy, you're very young. A foolish decision now could wreck your whole life.
Le bruit et la fureur, ce soir s'ouvre à la Cinémathèque une rétrospective consacrée à la courte carrière du réalisateur américain Nicolas Ray. Jusqu'au 29 septembre, l'événement nous fait redécouvrir le cinéma souvent décrié en Amérique, toujours adulé en Europe, de cet artiste de la fêlure qui avait brillamment dirigé James Dean en 55 dans La Fureur de Vivre. Zabou Breitman, invité de Boomerang ce matin pour Les Hirondelles de Kaboul, en salle la semaine prochaine, un film dans lequel on entend les voix, on le disait, de Swan Harlow, Zita Enro, Serge Bagdasarian ou encore celle de votre père, Jean-Claude Deray, disparu il y a 3 ans. Quand vous entendez sa voix, qu'est-ce que vous entendez, Zabou?
Mais j'entends d'abord qu'il est très fatigué. Il a 93 ans à ce moment-là et je me dépêchais d'enregistrer les voix puisque elles ont été la première chose avant l'image et je me dépêchais, je me disais pourvu qu'il tienne et qu'il soit là et il était là, il avait du mal. Alors il avait du mal, il respirait difficilement, il parlait difficilement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les animateurs ont animé ces difficultés-là, ces respirations-là. Et j'avais demandé aussi à Eléa que les personnages ressemblent ou évoquent complètement les acteurs.
Donc vous le voyez quand vous voyez le film?
Je le vois, mais je le vois un peu transformé. Je le vois comme le petit prince est content de voir son mouton dessiné sur la caisse. C'est-à-dire que c'est lui, sans être lui, mais encore plus lui. C'est-à-dire que c'est lui immortel. Alors, c'est quelque chose d'absolument bouleversant, parce que sa voix est tellement forte et touchante, et comme je vous le disais au tout début de l'émission, elle est immédiate, c'est quelque chose d'absolument bouleversant.
Quel acteur est-ce qu'il était?
Alors, il s'aimait pas comme acteur, il se trouvait naze, il trouvait qu'il en faisait des caisses, il dit mais j'en fais trop, parce que c'est un auteur, et il disait que les auteurs étaient pas toujours des bons acteurs, parce qu'ils voulaient jouer les mots.
Il faut le dire, un compagnon d'écriture. Je vous ai parfois entendu dire que sans vos parents, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Que vous ont-ils appris, en fin de compte?
Alors, ils m'ont appris des choses volontairement et d'autres involontairement, comme bien sûr beaucoup le fait l'éducation passive, mais ils m'ont appris tout ce que je vous disais. Bon, mon père, beaucoup l'éducation tout court, tout, la culture, le fait que je pouvais tout faire et que je devais tout lire, et que c'est pas parce que j'étais une nana que je devais pas lire de la SF ou du polar, ni regarder des westerns. Donc du coup, je voyais tout, je lisais tout. Et ma mère, elle était là, beaucoup plus dans l'ombre, parce que c'était une femme qui était vraiment dans la résistance, québécoise, famille très populaire. Et je n'ai compris sa résistance à elle que malheureusement, une fois qu'elle a été morte. Parce qu'en fait, le lien mère-fille était trop fort et me opacifiait mon regard. Mais ce que j'ai appris d'eux et qu'ils ne savaient pas que j'apprendrais d'eux, c'est l'échec. J'ai appris leur échec et ça, c'est un bizarrement, enfin non pas bizarrement bien entendu, mais enfin c'est quelque chose qui m'a énormément formée également.
Et vous, qu'est-ce que vous leur avez appris? Parce que ça marche dans les deux sens aussi.
Oh, je sais pas.
La légèreté, je me disais, peut-être.
Oui, sûrement. Mais vous savez, ma maman étant issue d'une famille de 11, rêvait pas d'avoir des mômes. Hein. Donc, j'ai compris après. J'ai respecté ça après. Mais oui, mon père, je lui ai appris une forme de légèreté, et le fait que j'étais une fille, ça lui plaisait beaucoup, parce que je faisais beaucoup marrer. On riait beaucoup.
Qu'est-ce qui vous rend légère, vous, dans la vie?
Mais tout ce qui peut titiller le cerveau, quoi. Dès qu'on a l'occasion de détourner les choses, ou d'en faire une connerie, ou de, même dans les drames les plus sombres, d'avoir ce petit moment où ça s'éclaire, parce que on a envie de, on peut pas résister à faire une blague, ou on peut pas résister. Ça me ravit, mais ce qui me ravit, c'est le talent. Ce qui me ravit, j'aime admirer, par exemple, vous voyez, j'aime les gens qui savent faire quelque chose que je ne sais absolument pas faire.
C'est pour ça que vous les faites jouer, les gens?
Absolument. J'adore ça. Mais j'adore ça.
Et ça date d'il y a longtemps, Zabou Breitman. À quel genre de jeu est-ce que vous faisiez jouer vos petits camarades de classe, par exemple?
Dites donc. Ah bon, pardon. enfin, quand même.
Oh, c'est pas mon genre.
On est à table. Alors, attendez. Ah ben non. À quel genre de jeu? À tout. Ouais. À tout.
Vous dirigez déjà quand vous étiez petite?
Ah bah oui, bien sûr.
Des jeux pervers?
Non, pas du tout. On faisait déjà des mises en scène, on faisait déjà des trucs, on jouait un peu n'importe comment, mais ça me plaisait énormément de fabriquer des petites scènes. On faisait des scénettes.
Au fond, qu'est-ce que c'est un bon acteur pour vous?
Alors, un bon acteur, oh là là. Parce que là, je suis en train d'en diriger plein et je les regarde tous et je me dis, la vache, qu'est-ce qu'ils sont bons.
Pour le théâtre.
Pour le théâtre, hein, pour la dame de chez Maxime. Ils sont tous extraordinaires. Alors,
ça tient à quoi?
La vache, c'est dur. Ah, eh bien, un extrême talent, une extrême technicité, et une extrême liberté, une fantaisie dingue. C'est ça qui est fou. C'est le mélange entre la fantaisie et l'adaptation. L'adaptation du talent à un metteur en scène. Et ça. C'est les deux. Parce que les acteurs qui s'adaptent pas, c'est très compliqué. Donc il faut être capable de s'adapter. Mais s'adapter, c'est un immense talent en soi. Donc il faut des très grands acteurs qui ont tout et qui savent en plus s'adapter.
Vous êtes prête à vous adapter là maintenant, tout de suite?
Peut-être.
Parce qu'on va danser. Alors, on va danser, chanter, et pas n'importe quoi. Fly Me to the Moon. Oh là là, cette sublime version de Bobby Womack en 1968. Quelle joie de vous retrouver toutes et tous quand même. Vous êtes sur France Inter avec Zabou. Et qu'est-ce qu'on écoute? Bon, on écoute Boomang, évidemment. C'est la rentrée, on chante.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Oh bah c'est Zaza, hein. C'est-à-dire que c'est la bonne copine. C'est Zaza, celle à qui vous ouvrez la porte même quand vous avez une sale gueule, celle que vous appelez à 3h du mat quand vous avez égaré votre clé, celle devant qui vous ne redoutez jamais de faire une intoxication alimentaire, celle qui est toujours là dans les moments difficiles et à qui vous le rendez bien parce qu'elle le vaut bien, la cousine tête beige, quoi, avec sa petite chemise, la verre d'eau. Zabou Breitman, invité de Boomerang ce matin. Et ce qu'il faut rappeler quand même, Zabou, c'est cet éclectisme. Je vous reçois ce matin pour un film d'animation, mais vous travaillez également pour le théâtre, pour l'opéra. Vous êtes évidemment comédienne. Comment ça, c'est de la curiosité, en fait. Vous êtes née curieuse.
Ouais, c'est ça. C'est de la curiosité. Je suis contente que vous disiez ça, parce qu'il y a des gens qui me disent, est-ce que vous êtes un peu boulimique? Non. Est-ce que vous ne seriez pas boulimique? Déjà, ça, j'ai envie de taper.
Mais ça, c'est une question fermée, rhétorique, à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non.
Oui, c'est ça. Oui. Non. Alors, oui, curieuse. Ouais. Extrêmement curieuse.
Comment on fait pour inciter à la curiosité?
Ah, c'est l'éducation. C'est l'éducation.
Donc ça, vous l'avez reçu, vous?
Ouais, vraiment. Oui, c'est vrai que mes parents disaient toujours, mais juste, aime tout, lis tout, vois tout, regarde tout. Tout est intéressant. C'est pas une question seulement de ce qu'on voit, mais comment on le voit.
Et être curieux, ça implique aussi effectivement de se confronter à des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais faites avant, qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être paralysant, je suppose.
Alors, pas paralysant. Ça peut me foutre la trouille, mais j'y pense après. C'est-à-dire que j'ai d'abord envie, ça m'empêche, donc ça ne m'empêche pas. Et après, je me dis, oh la vache. Et là, j'ai des petites angoisses.
Vous disiez que vos parents vous avaient appris l'échec avant qu'on passe ce disque. Ça présente quoi l'échec pour vous?
C'est leur échec. C'est pas le mien. C'est leur échec qui me fait énormément de peine et qui toujours m'en fait. Hein. Ça continue. Hein. Ça me lâchera pas.
Mais c'est l'échec de quoi?
Parce que c'était des gens qui rêvaient de faire tout ce que je fais.
Ah.
Et l'un et l'autre. Et ma mère me disait toujours une phrase qui me rendait hors de moi. Elle me disait, oui, mais toi, t'as de la chance. Parce que, elle disait, tu sais, tu peux écrire, tu peux faire de la mise en scène. Et moi, ça m'énervait au plus haut point. C'était, je me disais, bah, c'est ça. Donc, moi, j'y suis pour rien. Et en fait, j'ai compris qu'elle avait absolument raison. Oui, j'ai bien sûr que j'ai eu de la chance. Bien sûr qu'elle regardait la petite fille que j'étais en se disant, moi, j'ai pas été cette petite fille-là. Moi, on m'a empêché de tout faire. On m'a dit, t'es une petite fille, tu bouges pas, tu seras secrétaire, tu ne seras pas libre, tu ne décideras pas des choses. Et elle a compris très tôt que elle serait une résistante. Et elle me voyait être libre et elle se disait, avec peut-être une forme de regret sur elle-même, elle se disait, elle a de la chance. Même si elle était heureuse pour moi, mais ça lui laissait quand même une forme d'amertume, je pense.
Mais si vous avez appris l'échec, je suppose que vous êtes planté dans votre vie, à plein de niveaux, on se
plante
tous.
Ah, mais je m'en fiche.
Non, c'est ça.
Mon échec n'a pas tellement d'importance, en fait.
À quelle occasion vous avez eu des échecs?
J'ai oublié.
Ben oui. Alors, on n'a pas besoin de s'en remettre d'un
non.
échec?
Alors, on n'a pas besoin de s'en remettre, c'est intéressant de dire ça, parce que le fait de passer d'une chose à l'autre, d'un projet à un autre, et que non seulement je passe d'un projet à un autre, mais je me débrouille de manière sourde à ce que les projets se tuilent.
Ah !
Eh ben ouais. Donc, si un projet se tuile, si les projets se tuilent, ça veut dire qu'aucun projet ne se termine vraiment et qu'aucun projet ne commence vraiment. Donc rien n'est risqué.
Non mais c'est une stratégie en fin de compte.
Non mais c'est une stratégie complètement inconsciente. Mais je commence à la définir là maintenant. Mais il faut pas trop définir les stratégies parce que ces stratégies, spontanées, enfin voilà, oui, intuitives en tout cas, elles deviennent plus intuitives. Et si elles deviennent plus intuitives, elles sont plus intéressantes. Donc faut absolument les oublier aussitôt que les avoir définies, quoi.
Il y a rien qui vous fait peur, Zabou?
Si, les araignées, les serpents, un gros lion. ça me fait vraiment peur.
Et l'ennui, je me disais, l'ennui, ça vous fait peur?
Non, c'est bien l'ennui. Non, c'est super, mais je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup ennuyée.
Ah, c'est vrai?
Ah, énormément ennuyée. Petite. Et c'est super. Ah ouais. C'est super de s'ennuyer, c'est formidable. Parce qu'on rêve, surtout si on a beaucoup lu, si on peut s'ennuyer, on peut rêver, on peut avoir de la place. Je lis moins. C'est le seul truc qui me fait beaucoup de peine, c'est que je lis beaucoup moins parce que je suis happée par la série, par les images.
C'est-à-dire qu'il y a moins d'ennuis?
J'ai moins d'ennuis.
Ah oui, c'est ça.
Il faut s'ennuyer, il faut savoir. Mais alors, je sais ne rien faire. Je peux ne rien faire du tout.
Bah, vous faites quoi quand vous faites rien?
Rien.
Rien du tout.
Rien.
Si vous êtes allongé sur votre lit, non, rien.
Rien, rien. Je rêvasse, rien.
Ah, rêver, c'est déjà quelque chose, non?
Mais c'est bien sûr. Mais je ne fais rien. Je n'agis pas.
Est-ce que l'ennui n'a pas été aussi un catalyseur pour vous à l'envie d'aller vers les autres? À l'envie de se tourner vers autrui.
Oui, et puis l'ennui, c'est une façon aussi d'aimer regarder les autres. Vous parlez des acteurs, mais regarder les acteurs répéter, vous ne pouvez même pas savoir. Parfois, j'oublie de donner des notes à mes acteurs. Oui, j'oublie, parce que je suis en train de donner des notes, je les regarde, je donne des notes, et tout à coup, j'oublie de donner des notes, parce que je les regarde, mais même avec les imperfections qu'il peut y avoir, même avec... Je regarde parce que c'est beau ce qu'ils sont en train de faire. C'est beau comment ils se trompent, c'est beau comment ils osent, c'est beau d'être aussi courageux sur scène, parce que ça demande énormément de courage d'être acteur. C'est beau d'oser avoir la culotte en bas des pieds, parce que c'est ça que vous avez quand vous êtes acteur sur scène. Et je les regarde et je me dis, mais vous demandez ce qu'il faut comme talent? Il faut du courage pour être acteur, il faut énormément de courage. Et je les trouve absolument merveilleux et je les aime tellement que parfois j'oublie de leur donner des notes parce que je les adore.
Et vous vous confrontez comme ça aux autres, c'est quoi les autres? Pour vous, c'est une source intarissable d'interrogation
Pas toujours. Il y a des autres que je déteste tout de suite et dont je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais non, parce que... Oh non, il y a la phrase qui tue, il y a la phrase où vous dites, ah ben non, c'est mort. Allez hop, c'est mort, ça c'est mort. Il faut, s'il y en a qui va me dire, je sais pas quel truc, il me dit, ah c'est que du bonheur. Alors là, je vais dire, oh, aïe, 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 aïe.
Qui vous êtes, vous, en fin de compte? Ça vous pourrait être mal.
Ah ouais, non, mais ça, non, je sais pas. Non, mais qui je suis, comme ça, on peut pas répondre. C'est dur comme question. Je sais pas, vous êtes qui, vous?
Moi, je suis Augustin.
Ouais. Non, mais d'accord, ça, c'est facile. Alors, je sais pas, moi, qu'est-ce qui vous fait peur?
Ah non, mais on va pas, les enfants de cœur me font peur.
Oui, vous l'avez été.
Ouais, j'ai été enfant de cœur. Ah bon, ça se voit?
Ouais, dans la coupe de cheveux.
Oh non, la fois.
Bon, alors, quel est votre premier livre?
Tissot les pouces
verts. Votre premier disque?
Kim Wilde.
Premier film?
Bambi.
Vous avez pleuré quand la mère meurt?
Bah ouais, j'ai pleuré.
Qu'est-ce qui vous fait jouir?
Le langage.
7 x 8.
48.
Qui n'a jamais dit, si tu n'en veux pas, je la remets dans ma culotte?
Harvey Weinstein.
Quelle heure est-il ?
Eh bien, il est 9h36.
Vous avez regardé l'horloge, là ?
Non, je n'ai pas. Si. Si, non, non,
si.
J'ai pas.
Si, oh. Qui a dit, j'adore Arte, quelle belle chaîne intéressante.
Bah, Carla Bruni, au Figaro.
Qui n'a jamais dit, tu pues du huc ?
Ah bah moi, ça fait pas du tout partie de mon vocabulaire.
De quelle couleur est Casimir ?
Orange.
Qui a volé l'orange du marchand ?
Michal, dans la Star Academy.
Quelle saison ?
La troisième.
C'est quoi la peau d'orange ?
C'est la cellulite.
Pourquoi vous me dites ça à moi ?
Bah je sais pas, de ce que je vous vois là, je...
Ok. Que dit un hibou à sa femme le jour de l'an ?
Je te souhaite une bonne année.
Oui.
Quoi ?
Non,
mais Zabou, là, enfin...
Non, mais vous avez été prof d'anglais ou pas ?
Ouais, mais j'ai été prof d'anglais.
Wanna mais... World, but really ?
Non, mais en tout
oui, cas... bah voilà, c'est pas si facile. Alors, oh. Pour... Non, mais excusez-moi. Merci, en tout cas, excusez-moi.
Non, mais
merci,
attendez.
Merci, non, attendez, pardon. Merci, mais... Augustin Trapenard. Je rappelle que Boomerang est une émission où vous posez des questions auxquelles vous ne savez pas répondre. Tout de suite, l'antenne de France Inter
non, c'est
continue
vache, là, quand même,
avec...
La fin
s'il
de
vous plaît, s'il vous plaît, Augustin. Sonia De Villers, l'instant M, juste après ça.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies. Sur Terre 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les puissants lits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle.
Dans l'univers, Vanessa Paradis Nekfeu sur France Inter. Et merci Zabou, ça c'était une carte blanche.
Merci.
Les Hirondelles de Kaboul, votre merci film co-réalisé avec Eléa Gobemefelec sort la semaine prochaine. Je précise également que votre mise en scène de La Dame de chez Maxime de Feydeau sera dès le 10 septembre au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Et que vous proposez aussi une adaptation pour le théâtre du livre de Serge Kribus, Théolonius et Lola à la Maison de la Culture d'Amiens en octobre. Et puis pour les auditeurs de France Inter qui vous adorent, il faut quand même le dire, vous serez chez Vincent Josse
oui,
dimanche dans le Grand
Vincent.
Atelier. Vincent. Et tout de suite, ça va être les médias, avec celle que vous adorez, la chère Sonia.